À tous. Bienvenue au Collège Pierre Dubois pour ce radio-concert spécial Fête de la musique.
Tout d'abord, merci à la Brigade du Chœur, la chorale du Collège Pierre Dubois qui vient de nous interpréter Down to the River, une chanson du film Oh Brothers. Nous les retrouverons en chanson tout au long de ce radio-concert et aussi pour une interview en fin d'émission.
Quentin, Mathis et Théo nous parleront de protection animale et de véganisme avec un sujet sur l'association L214.
Emani et Sarah Jade nous parleront du service civique et de la lutte contre les discriminations.
Et maintenant, nous recevons Liam et Léa qui vont nous présenter un reportage réalisé lors d'une visite de la source, la salle de spectacle de Fontaine.
Bonjour Liam et Léa. Alors, comment s'est passée cette visite à la source ?
Bonjour à toutes et à tous. Le jeudi 6 juin, nous avons visité la source avec toute notre classe. Nous avons rencontré Arnaud qui nous a fait visiter cet équipement municipal qui abrite plusieurs salles de spectacle, mais aussi une école de musique et des studios de répétition.
Il nous a parlé de l'histoire de l'architecture et de l'acoustique du bâtiment, mais aussi des concerts et des spectacles qui y sont donnés.
Nous avons pu visiter l'école de musique, les studios, les salles de spectacle et même assister quelques instants à la balance de Arabella, un groupe de rock dont le chanteur Rémi Guérao a fréquenté, paraît-il, notre collège.
Nous avons aussi rencontré Pascaline, la directrice, qui nous a parlé plus en détail de l'école de musique, et Thomas, un technicien son, qui lui nous a parlé de son métier. L'occasion pour nous d'enregistrer des ambiances de la visite et des interviews. Écoutez.
Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Arnaud, je travaille à La Source maintenant depuis 10 ans. La Source, c'est quoi ? La Source, en fait, c'est un établissement, c'est un équipement culturel et une école de musique. De la ville de Fontaine. Donc, la particularité de la source, pour le coup, c'est que c'est la seule salle de spectacle dans l'agglo qui a dans ses murs une école de musique. Ce qui fait que c'est une structure qui est ouverte de 8h du matin à 23h. Voilà. La source, en fait, plusieurs salles de spectacle, il y en a trois. Là, vous avez de la chance, aujourd'hui, on a un ancien élève, d'ailleurs, de Pierre Dubois, c'est Cécile Parazé, qui joue ce soir. Et donc on va pouvoir, pendant un temps, voir les balances. Alors par contre, sur les temps de balance, je vous demanderai de garder le silence et de se faire discret, parce que pour le coup, il y a vraiment, c'est un temps de balance, donc c'est là où on cale le son, c'est là où... Donc faites gaffe à vos oreilles, parce que c'est des moments où on règle le son, donc il peut y avoir des fluctuations de fréquence. Et puis pour le reste, la visite va globalement durer une petite heure, une heure et quart. Et puis vous avez apparemment plein d'autres questions.
Alors bonjour, je suis Pascaline Torel, donc je suis directrice de La Source, qui est un équipement culturel qui regroupe à la fois trois salles de spectacle et également un conservatoire à rayonnement communal qui accueille 350 élèves au quotidien pour leur apprendre à la fois un instrument, mais aussi toute la pratique et l'élaboration de la création musicale. Et je fais en sorte que la diffusion culturelle réponde à la politique culturelle de la ville, puisque nous sommes un équipement municipal.
Comment sont financées les études des élèves ?
Donc, un élève aujourd'hui, en moyenne, à l'école de musique de Fontaine, coûte 2000 euros à l'année à la ville. Voilà, pour son parcours annuel. C'est un chiffre assez élevé. Et pour 95% de ce montant, c'est la ville et donc les impôts des Fontainois qui payent ce parcours. Ensuite, pour 2%, c'est la cotisation que paye la famille. Donc vous voyez à quel point la ville fait en sorte que tous les élèves, enfin tous les enfants, puissent accéder à la pratique musicale, parce que 2% c'est vraiment rien pour une famille par rapport au coût global. Sur la moyenne, ils payent 100 euros à l'année, hein, la moyenne de tous, en suivant le quotient familial. Et les 3% restants, c'est le département de l'Isère qui finance le fonctionnement de l'école de musique.
Lorsqu'un élève finit son cursus dans votre école, comment exploite-t-il ce qu'il a appris? Et quels sont les retours des élèves que vous avez formés?
Alors, les élèves qu'on a formés sont plutôt satisfaits de leur parcours à Fontaine, puisqu'ils trouvent que l'école de musique leur apporte un environnement confortable, assez familial, et où on les aide à progresser dans la bienveillance générale. Quand ils ont terminé leur parcours, ils ont plusieurs possibilités. Ou poursuivre de manière amateur, donc en allant dans des associations musicales, en formant un groupe, en venant dans les studios, répéter par exemple, ce qui arrive souvent. Ou d'autres ont envie de se professionnaliser. Et dans ce cas-là, se dirigent plutôt vers des conservatoires type le Conservatoire Rayonnement Régional de Grenoble ou autres, puisqu'il y en a d'autres dans la région, pour aller plus loin dans leur parcours musical et faire ensuite suivre un peu celui que j'ai fait.
Alors salut, je m'appelle Thomas Chaffardon. Je suis régisseur son à la source, donc ici, dans les lieux. Je m'occupe de la sonorisation des 3 salles de spectacle qui sont dans le lieu, à savoir la grande salle là-haut, l'ampli et l'auditorium. Donc, mon travail donc, consiste à assurer donc, le bon déroulement des concerts, à m'occuper de l'étude des fiches techniques, des groupes qu'on accueille et de la maintenance du matériel.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier et depuis quand?
Depuis que j'ai 13 ans, 12-13 ans, un truc comme ça. Quand je suis rentré en 4e, au fait, au collège, là, j'ai commencé à jouer de la guitare. Du coup, j'ai trouvé une petite guitare électrique avec un ampli. Et c'est là où j'ai commencé à jouer, à tourner des potards, à tourner des boutons sur l'ampli. Et ça m'a donné envie de m'intéresser au traitement du son, en fait. Donc depuis que j'ai votre âge, à peu près. Et du coup, je n'ai jamais lâché, je me suis mis ça comme objectif.
Quelle étude avez-vous suivi? Quel est votre parcours?
Donc j'ai fait un cursus classique au collège. Et quand je suis arrivé au lycée, je suis rentré en seconde TSA, ça s'appelle Technique des systèmes automatisés. Après, j'ai fait un bac électronique. Et après, je suis rentré dans une école audiovisuelle privée qui s'appelle l'ESRA, l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. Et c'était la section son qui s'appelle l'ISTS, l'Institut supérieur des techniques du son. Et c'était en 3 ans. Et on se spécialise la 3e année en studio, le son dans les studios d'enregistrement, le son télé, donc tout ce qui est film, cinéma, machin, télé, etc., radio, et la sonorisation d'événements. Et du coup, moi, je me suis spécialisé en sonorisation en 3e année. Voilà.
Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ?
Ben, en fait, généralement, notre métier, c'est un peu notre passion à la base. Comme je le dis, moi, depuis que je suis gamin, j'ai envie de faire ça. Depuis que je suis gamin, je touche des potards. C'est un truc qui me passionne, en fait, depuis toujours. Alors, les avantages, c'est qu'on rencontre plein de gens, plein d'artistes. Et les inconvénients, c'est qu'on a des horaires complètement décalés. C'est qu'on peut finir à 1h du matin. Et tu commences à 13h. Bon, tu vas dire, ouais, bah, tu peux dormir le matin. Sauf que quand t'as des gosses, ben non, tu dors pas le matin. Donc, du coup, finalement, tu fais des petites nuits, etc. C'est bon. C'est l'inconvénient, quoi.
Quel conseil donneriez-vous à une personne qui voudrait faire ce métier?
Bah, de jamais lâcher et puis d'être autonome, vachement. Quand vous rentrez dans une salle comme ça, et si t'as envie de faire ce métier-là, ben, il faut que t'ailles voir les gens, en fait. Tu leur parles, tu leur poses des questions, etc. Il faut que tu montres que t'es motivé, en fait. Il faut montrer que t'es motivé et que t'en veux et que tu veux faire ça. Et que c'est du contact, en fait. C'est beaucoup de contact, voilà. Tu peux pas arriver comme ça, c'est bon, j'ai mon diplôme. Moi, en sortant de mes études, j'avais mon diplôme, tout ça, super, bac plus 3, génial, voilà, hop. Ah non, tu bosses pas tout de suite comme ça, quoi. Il faut que tu te fasses un petit réseau, que... Voilà, c'est... Donc, du coup, il faut être motivé, puis il faut arrêter de jouer à la console.
Aïe, y a Rémi, là.
Ouais, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir... On va continuer vite fait la visite par la balance. On va prendre un petit moment... Allez, on y va vite fait, on reste pas longtemps.
Vas-y mon pouce.
Thank you.
C'était très intéressant de découvrir les coulisses de ce lieu et les différents métiers et professions qui permettent au spectacle d'exister.
Pour conclure, nous vous conseillons d'aller faire un tour dès ce soir pour la fête de la musique. Il y a un concert gratuit en extérieur avec le Pacha Disco par la compagnie de Barbara Fourchu.
Merci et bonne fête de la musique.
Merci à vous deux et maintenant nous allons accueillir sur le plateau Quentin, Mathis et Théo, qui aimeraient nous donner leur avis sur l'association L214 que notre classe a rencontrée lors de la semaine de l'engagement.
Merci Oriane. Il faut d'abord rappeler ce que c'est l'association L214. L214 est une association qui lutte contre la maltraitance animale et en particulier contre la maltraitance des animaux d'élevage.
Le but de cette association est de montrer les conditions de vie, de transport et de mort de ces animaux, mais aussi de soulever des questions éthiques et de proposer des solutions.
C'est donc une association qui milite pour les droits des animaux et qui fait la promotion du véganisme.
Alors avant de poursuivre et de vous donner notre avis sur cette épineuse question, nous allons écouter un extrait de l'interview de Kaimi Silver, une militante de L214 que nous avons rencontrée, comme tu le disais Oriane, lors de la semaine de l'engagement. Écoutez.
Est-ce que vous savez ce que peut vouloir dire le nom L214? Ça fait un peu mystérieux, ça fait un peu code. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où ça pouvait venir? 214. Non, il n'y a pas 214 bénévoles, on est plus près du 5-6 000 bénévoles peut-être. Donc en fait c'est le nom d'un article de loi. C'est un article qui vient du Code rural, qui date de 71, qui dit que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Ça veut dire que chaque animal, puisqu'il est sensible, a besoin de vivre dans un environnement dans lequel il puisse accomplir ses besoins. Manger, boire, avoir assez d'espace, ça va être aussi avoir de la santé, pouvoir être près de ses congénères, ça va être aussi pouvoir être soigné et être dans des conditions d'hygiène qui sont dignes. Alors qu'est-ce qui nous a intéressé, nous, dans l'association, par rapport à cet article de loi en particulier? Eh bien, c'est la notion d'être sensible. C'est parce que les animaux peuvent souffrir qu'on doit les défendre. C'est ça qui est vraiment important pour nous. Chaque jour en France, il y a 3 millions d'animaux qui sont tués dans les abattoirs. Si vous allez à la campagne, vous voyez souvent ce genre de bâtiments, ce sont des hangars qui sont fermés avec des silos sur les côtés. En fait, ce sont des élevages d'animaux, des élevages intensifs. Les animaux passent toute leur vie dedans, ils ne voient jamais la lumière du jour. Généralement, ils sont vraiment entassés les uns sur les autres et c'est une vie qui est extrêmement difficile. Et du coup, j'ai commencé à me demander ce que je pouvais faire à mon échelle d'individu, comment je pouvais agir. Et la première manière d'agir, forcément, c'était par l'alimentation. Mais moi, comme tout le monde, je viens d'une famille qui mange de la viande, du poisson, qui mange des produits laitiers, qui mange des œufs, et ça me semblait super compliqué. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire attention aux labels. Je faisais attention à ce que ça ne vienne pas d'un élevage intensif. J'ai favorisé l'élevage bio, l'élevage plein air. Et après, je me suis dit que ces animaux, de toute façon, c'est vrai qu'ils finissent quand même à l'abattoir. Et j'ai pensé aussi, aujourd'hui, étant donné le nombre de personnes qu'on est, on ne peut simplement pas nourrir toute la population française avec de l'élevage extensif, l'élevage bio. Et j'ai commencé à me dire que j'allais finalement peut-être arrêter de manger de la viande et des œufs, et du poisson. Et je suis devenue végétarienne. Et après, finalement, j'ai changé mon alimentation. J'ai aussi arrêté de consommer des œufs et des produits laitiers. Et je suis devenue ce qu'on appelle quelqu'un de vegan, c'est-à-dire quelqu'un qui ne consomme pas de produits d'origine animale dans la vie. Mais c'est pas quelque chose qui s'est passé du jour au lendemain. J'ai arrêté petit à petit. Et puis après, je suis arrivée à un moment où je me suis dit que peut-être je pouvais essayer de faire plus. Alors la première étape de ce cheminement-là, c'est que j'ai choisi une association. Choisi L214 pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était une association qui défendait les animaux d'élevage, donc c'était la cause qui m'intéressait. Mais aussi parce qu'il y avait plusieurs valeurs qui m'intéressaient dans cette association en particulier, comme par exemple la bienveillance. J'avais l'impression aussi que comme c'était une association assez grosse, on avait vraiment le pouvoir de faire des choses. C'est pour ça que j'ai commencé à être bénévole pour L214, donc dans l'antenne de Lyon, puisque j'étais à Lyon.
Y a-t-il des risques à devenir végane et y a-t-il un risque de malnutrition ?
Aujourd'hui, les plus grandes associations de nutrition dans le monde, à savoir celles des États-Unis, du Canada, d'Australie, d'Allemagne, etc., s'accordent à dire que être végétalien, c'est-à-dire être végane au niveau de l'alimentation, c'est OK au niveau nutrition. Si c'est équilibré, un peu comme lorsqu'on mange de la viande, si vous mangez que des kebabs tous les jours, vous allez forcément être dénutri. Bah, de la même manière, lorsqu'on est végétalien, il faut équilibrer son alimentation, notamment à base de légumineuses céréales, mais aussi avec des légumes, des fruits, des oléagineux. Il y a un élément qu'on ne retrouvera pas dans sa nourriture, c'est la vitamine B12, qui est une vitamine qui est difficile à synthétiser. Donc les personnes qui deviennent végétaliennes à n'importe quel âge de leur vie, donc que ce soit lorsqu'ils sont tout petits ou lorsqu'ils sont âgés, doivent faire attention à se supplémenter en vitamine B12.
Pourquoi choquer les consommateurs avec des vidéos de maltraitance dans les abattoirs ?
Alors, on ne cherche pas à choquer les consommateurs par des vidéos de maltraitance. Nous, notre slogan, et j'aurais dû le dire, c'est ouvrir les yeux sur l'élevage et l'abattage des animaux. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est montrer la réalité de ce qui est vécu par les animaux dans les élevages et les abattoirs. C'est vrai que souvent, les images qu'on dévoile de cette manière, elles sont très violentes, mais c'est pas notre volonté de choquer les gens. C'est juste que cette réalité à laquelle on s'intéresse, c'est une réalité qui est d'une extrême violence.
Voilà, alors du coup, notre avis est partagé. Il y a du pour et du contre. C'est vrai que les conditions de vie dans les élevages et les abattoirs sont très scandaleuses.
C'est vrai aussi que dans nos pays industrialisés, il y a une surconsommation de viande et de produits issus des animaux.
Mais il est vrai aussi que la consommation de viande fait partie de nos traditions culinaires, et en plus la viande c'est bon.
Alors peut-être que des solutions intermédiaires peuvent être trouvées, comme par exemple manger moins de viande, mais de meilleure qualité.
Et aussi surtout améliorer les conditions de vie des animaux, d'élevage et arrêter de produire de manière industrielle et inhumaine.
Voilà, c'est notre avis. En tout cas, L214 a au moins le mérite de poser le débat.
Merci à vous trois. Il est maintenant temps d'écouter une nouvelle chanson interprétée par notre chorale, la Brigade du Cœur. Ce morceau s'intitule « Drôle de vie » et il est du film « Tout ce qui brille ».
Amis chanteurs que nous retrouverons pour une dernière chanson et une interview dans quelques instants. Et maintenant, c'est Emani et Sarah Jade qui vont nous parler d'une interview réalisée lors d'une rencontre avec deux jeunes filles de l'association Unicité en service civique sur le programme Jade. Alors, Emani et Sarah Jade, que pouvez-vous nous dire sur le service civique et qu'est-ce que le programme Jade ?
Bonjour à tous. Alors, le service civique, c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général. C'est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Le service civique permet aux jeunes de s'engager pour une période de 6 à 12 mois dans une mission en faveur de la collectivité. Cela permet aussi aux jeunes de faire une pause dans leurs études, de rencontrer des gens différents et d'acquérir une expérience professionnelle.
JAD, c'est les jeunes ambassadeurs des droits pour l'égalité. Ce sont des personnes recrutées en service civique et dont la mission est d'aller à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité.
Donc ces deux jeunes en service civique sont venus nous parler de la discrimination, comment elles se construisent, comment se définissent-elles d'un point de vue juridique et surtout quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour lutter contre les discriminations.
Voilà, donc les discriminations, ça existe et nous pouvons tous en être victimes. Mais nous avons tous des droits et des solutions existent pour se défendre. Si vous êtes victime de discrimination, il faut en parler autour de vous, même faire appel à la loi et aux défenseurs des droits. Il ne faut surtout pas se laisser faire.
Pour conclure, nous allons écouter un extrait de cette interview.
Du coup, pour vous expliquer un petit peu, on va parler du processus mental qui se cache derrière une discrimination. Et on va commencer par un petit truc tout bête. Ça s'appelle la catégorisation, donc vous allez juste nous dire ce que vous allez voir apparaître. C'est bien, bonne réponse.
Ouais, ça paraît vraiment tout bête, mais en fait c'est vraiment le processus de catégorisation qui est inconscient et naturel, qu'on fait tous et qui nous permet de nous simplifier la vie, parce qu'en fait c'est vraiment mettre dans des catégories des objets qui ont des caractéristiques communes. Donc par exemple, on voit 4 pieds, on se dit que c'est une chaise. Donc ça se fait tellement naturellement qu'on ne s'en rend pas compte. Et ça nous permet de percevoir notre environnement plus rapidement.
En fait, si notre cerveau ne faisait pas ce processus-là, on ne pourrait juste pas survivre. Parce qu'on aurait beaucoup trop d'informations à traiter. On ne pourrait pas catégoriser, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et on ne pourrait pas non plus, s'il y a un danger ou s'il y a vraiment quelque chose qui représente un danger, on ne saurait pas l'analyser non plus. Parce qu'on voilà, on ne met pas de catégorie. Donc on pourrait juste pas survivre. C'est comme si on mettait les choses dans une boîte et le stéréotype, on vient rajouter une étiquette sur cette boîte. Et juste après le stéréotype vient le préjugé en fait. Donc c'est juger avant de connaître. On va simplement apporter un jugement par-dessus ce stéréotype. La nuance, elle est assez subtile entre stéréotype et préjugé.
Et pensez bien que tout ça, c'est un processus mental, donc on s'en rend pas forcément compte et ça se fait très naturellement. Et on est aussi là pour vous faire comprendre qu'il faut avoir conscience de ces stéréotypes. Ils s'enlèveront pas parce que c'est un truc qui est véhiculé par les médias, l'éducation, notre entourage. Enfin, tout ce qu'il y a autour de nous fait que ces stéréotypes sont véhiculés. Mais il faut en avoir conscience et se dire qu'on peut avoir une première idée de se dire « Ouais, cette personne, elle doit être comme ça. » Et après, on peut se dire « Peut-être pas, en fait, si t'étais juste un stéréotype. » Donc, dans la catégorisation, la plus classique, ce serait « fille-garçon ». Le stéréotype, ce serait du coup que la fille est douce et que le garçon est fort. On pense généralement ça. Et du coup, peut-être que la fille serait trop douce pour de la mécanique et le garçon pas assez sensible pour la puriculture. Et du coup, la discrimination, ça pourrait être que la fille, elle est refusée d'être embauchée dans un garage et que le garçon, il est refusé d'être embauché dans une crèche. Vous voyez comment ça peut se construire mentalement? Après, là, c'est très schématique et tout ça, mais ça se passe comme ça en réalité.
En fait, nous, le message qu'on essaie de faire passer... C'est de dire que des stéréotypes, on en a tous. Et comme Lisa le disait, c'est impossible de se réveiller demain matin et de plus en avoir. Mais il faut faire attention à ce que ça influe pas, en fait, nos comportements. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que ce sont des stéréotypes, que ce sont des idées qui sont pas forcément vraies, même la plupart du temps qui sont fausses. Et voilà, prendre du recul et pas assimiler tout et pas prendre ça pour une vérité générale. Du coup, pour avoir vraiment une discrimination en droit, il faut 3 éléments.
Donc c'est le refus, le critère et le domaine.
On nous refuse l'accès à quelque chose, en fait.
Donc c'est marqué un traitement moins favorable d'une personne dans une situation comparable. Donc essayez de bien retenir ces 3 éléments. Ils sont ultra importants et il faut vraiment qu'il y ait ces 3 éléments pour qu'il y ait une discrimination. S'il n'y en a que 2, ça ne marchera pas. Et du coup, c'est important de les retenir pour reconnaître les situations et se dire ça, c'est une discrimination ou ça, c'en est pas une. Donc c'est le refus, le critère et le domaine.
En fait, ça sert à rien que vous connaissiez la définition par cœur, comme ça, c'est pas le but. Mais simplement, si vous connaissez ça, et ben, ça vous permet de mieux faire valoir vos droits, en fait. Parce que vous allez faire la différence entre si vous avez vraiment été victime de ça ou pas, ou si vous êtes témoin aussi, parce que vous pouvez être aussi témoin.
Donc comme on vous a dit, la discrimination, c'est pas bien, c'est illégal et c'est puni par la loi. Donc on peut être puni de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour une personne physique et pour une personne morale. De 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. C'est super important d'en parler, de ne pas se dire « c'est pas grave, je passe à autre chose ». Et du coup, on peut aussi contacter le défenseur des droits, dont on va vous parler de cette institution. Donc c'est à la fois une institution qui s'appelle le défenseur des droits, et c'est aussi une personne physique qui s'appelle Jacques Toubon, peut-être que vous en avez entendu parler dans les médias. Et en fait, elle agit sur 5 champs d'action. Enfin, là, plutôt 4, on va dire. Donc, elle aide à faire valoir les droits des citoyens quand ils ont des problèmes avec les services publics, comme la CAF, Pôle emploi, d'autres administrations comme ça. Elle défend et fait connaître les droits de l'enfant. Elle lutte contre les discriminations, donc notamment par nous, mais ils ont d'autres professionnels là-dedans. Et elle veille au respect des règles de déontologie des forces de l'ordre. C'est en gros pour pas que les forces de l'ordre elles abusent de leur pouvoir et qu'elles respectent les règles de leur métier, quoi. Dans les fouilles, dans les manifestations, dans ce genre de choses, qu'elles abusent pas de leur pouvoir.
Du coup, en fait, comme on l'a dit, le Défenseur des droits, c'est une institution qui est basée à Paris. Mais il y a des délégués dans toute la France, il y en a à peu près 500. Donc faut pas penser que c'est un truc à la capitale et que ça nous aidera pas. Voilà, il y en a vraiment dans toute la France, en Isère il y en a 9. C'est super facile de les contacter là, on vous a mis les adresses mail, mais si vous allez sur le site du Défenseur des droits, vous avez toutes les informations. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez le contacter si vous êtes mineur ou majeur, si vous êtes victime ou témoin, si vous pensez vraiment que vous avez été victime d'une discrimination ou si vous avez juste une question par rapport à ça. C'est gratuit, ils sont là pour ça en fait. Il suffit juste de prendre un rendez-vous, donc ils ont des permanences. Et ils seront vraiment là pour vous orienter, vous dire si oui ou non vous avez été victime de telle ou telle chose. Et ensuite, ils vont pouvoir enquêter avec vous, essayer de réunir des preuves. Et après, c'est selon ce que vous voulez faire. Soit ils vont vous conseiller d'aller en justice, soit ils vont faire ce qu'on appelle un règlement à l'amiable. En fait, c'est arranger les deux parties pour trouver un commun accord. Du coup, ça peut passer simplement par aller voir l'entreprise ou l'établissement qui a discriminé et faire un rappel à la loi. Simplement dire ce que vous avez fait, c'est illégal. La victime n'attend pas de réparation, mais voilà, un rappel à la loi, ce que vous avez fait, voilà, c'est complètement illégal et voilà ce que vous encourez. Et si la victime le souhaite, allez devant la justice.
Et pensez bien que c'est pas aussi long que d'aller porter plainte à la police. C'est vraiment facile de les contacter et même s'ils peuvent pas nous aider, ils peuvent nous réorienter vers d'autres services compétents et ils sont vraiment là pour nous, quoi. Donc faut vraiment pas hésiter à les contacter.
Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que souvent les victimes de discrimination, elles en parlent pas. Un peu les mêmes réflexes que vous, se dire c'est pas très grave, ou je vais forcer, je vais essayer de rentrer, ou je vais aller voir un autre établissement et voilà. Sauf qu'en fait, moins on en parle, moins on permet de faire connaître ça, et plus il y aura de discrimination.
Et plus ça devient banal, en fait, et il faut pas. Donc, faut vraiment en parler. Au moins, en parler déjà à quelqu'un, c'est déjà beaucoup. Et si en plus, vous pouvez en parler au Défenseur des droits, ou à la police, ou à quelqu'un plus au-dessus, c'est bien aussi.
Merci Emani et Sarah Jade pour toutes ces infos. Ce radioconcert touche à sa fin. Et avant de terminer, en chanson, nous allons demander à Dorine et Célia, qui font partie de la Brigade du Cœur, de venir nous rejoindre pour une interview.
Bonjour Dorine et Célia. Nous allons vous poser quelques questions. Tout d'abord, pouvez-vous nous raconter comment vous avez connu cette chorale et comment vous êtes-vous engagée dans la chorale ?
Personnellement, je connais cette chorale en 6e déjà. Et au début, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je me disais que ça allait être peut-être un peu ennuyeux. Après, au fil du temps, je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'ai vu mon groupe d'amis s'inscrire et j'ai voulu découvrir.
Et moi, pour ma part, moi aussi, je l'ai connu depuis la 6e. Et comme Célia, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et depuis, je ne sais pas, ça m'a intéressé cette année, le thème et le fait que j'ai mes amis avec moi qui m'accompagnent. J'ai voulu essayer cette année.
Depuis quand cette chorale existe-t-elle et d'où vient le nom la Brigade du Cœur ?
Cette chorale, elle existe depuis le début de l'année, et tout simplement. Et le nom de la Brigade du Cœur, en fait, on voulait un mot qui puisse nous regrouper. Et du coup, le mot chorale, ça semblait trop évident. Groupe, c'était un peu simple. Donc brigade, on trouvait ça bien. Ça nous unissait un peu comme, comme une famille par la musique. Et le cœur, c'est un jeu de mots avec le cœur du coup dans notre poitrine. Et le cœur en chorale, c'est plusieurs personnes qui chantent en même temps.
Comment ça se passe les répétitions ? Où et quand répétez-vous ?
Alors les répétitions, elles se passent dans la salle de musique de Madame Lombardi et elles se passent le jeudi entre 12h30 et elles durent toute la période de ce temps-là.
Avez-vous des devoirs à la maison ? Si oui, lesquels ?
Je dirais pas ça comme un devoir, parce qu'un devoir, c'est un peu comme une obligation. Et en soi, là, c'est plus pour du plaisir. Donc du coup, on n'est pas obligé de le faire. Mais vu que c'est par plaisir, on révise nos chants, tout simplement.
Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette chorale ? Pourquoi aimez-vous chanter ?
On s'est engagé dans cette chorale parce que on aime chanter et comme on était en groupe, ça nous faisait plaisir d'y aller, de faire quelque chose dans l'établissement, de se retrouver, de passer un moment ensemble. Et on aime chanter. Moi, personnellement, j'aime chanter depuis tout le temps, que ce soit des chansons connues, pas connues, toute seule, avec mes sœurs, avec je sais pas.
En fait, je pense que tout le monde aime bien chanter, c'est juste que ça dépend du taux de timidité. Un exemple, vu qu'on est en groupe, là, on s'est dit que ça pourrait le faire, mais je pense que tout le monde pourrait essayer d'être à la chorale.
Comment sont choisies les chansons et quelle est la thématique de cette année ?
Les chansons sont choisies par Madame Lombardi qui nous les propose pour certaines. Et la thématique de cette année, c'était sur les films, tout simplement.
Pour finir cette interview, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous allez nous chanter maintenant ?
Alors ça, ce sera une surprise. J'espère que vous allez aimer.
En fait, ce sera City of Stars de La La Land.
Mais non, t'es sérieuse ?
Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Nous vous laissons donc rejoindre vos camarades pour cette dernière chanson. Le moment est venu de conclure cette émission et avant de vous écouter, nous aimerions remercier tous les élèves de la classe de 3e 4 et Madame Lombardi, notre prof de musique, pour la préparation de cette émission. Merci aussi au Collège Pierre Dubois, à La Source et la Web Radio, La Voix des gens, pour nous avoir permis de réaliser cet atelier.
Merci aussi à Ramzi, Jawed, Alexia, Inès et Khaled qui nous ont assuré la technique pour ce radioconcert.
Et merci aussi à Lucien d'ailleurs. Vous pourrez retrouver cette émission et tous nos reportages et interviews en podcast sur le site www.lavoixdesgens.fr.
On se quitte en chanson avec la Brigade du Cœur. Merci de les applaudir.
Merci beaucoup à vous tous.